Chapitre 8. Monnaie d'échange. Tous les regards se tournèrent vers la figure de proue. Malta se dégagea de l'étreinte de Yéma. Personne à part elle ne paraissait comprendre que le navire s'adressait à elle. Au contraire, les yeux passaient du gouverneur au navire. Kosgou restait sidéré devant la figure de proue parlante, mais Malta regardait au-delà de lui. À côté du gouverneur, se tenait un homme de haute taille, brun, avec une jambe de bois. Son beau visage flegmatique exprimait le mécontentement. À côté de lui, le capitaine rouge avait perdu de sa superbe. Il détestait qu'on lui vole la vedette. Il jeta un coup d'œil à l'autre homme et Malta devina tout à coup qui il était. Le capitaine Kenneth, le roi des îles des pirates. Elle profita de la distraction pour le jauger. Sa réaction immédiate fut tout ensemble de méfiance et d'attirance. Comme Roadkern à Terrilville, le danger émanait de lui. Autrefois, elle l'aurait trouvé mystérieux et séduisant, mais elle s'était assagie. Les hommes dangereux n'étaient plus romanesques ni exotiques. Ils pouvaient nuire. Cet homme-là ne se laisserait pas manipuler ni convaincre aussi facilement que le capitaine rouge.
« Tu es trop timide pour me parler ?»
demanda le navire avec chaleur. Elle lança à la figure de proue un regard désespéré et suppliant. Elle ne voulait pas que l'homme à la jambe de bois la considère comme particulièrement importante. Elle devait seulement être la conseillère du gouverneur. Une lueur de compréhension passa-t-elle dans les yeux de Vivacia ? Le gouverneur paraissait vexé par les paroles enjôleuses de la vive nef. Il croyait qu'elle s'adressait à lui.
« Salut à toi, vive nef !»
dit-il avec raideur. Son étonnement avait été fugace. Toute sa vie, il avait été comblé de cadeaux nouveaux et surprenants, et il était sans doute blasé. Sa gratitude était-elle aussi de courte durée ? Du moins, parut-il se rappeler le conseil de Malta. « Ne vous conduisez pas comme un prisonnier ni comme un quémandeur. » Il se tourna vers Kenneth. Il ne s'inclina pas, ne le salua d'aucune manière.
« Capitaine Kenneth »
prononça-t-il sans sourire. Sa reconnaissance officielle de Kenneth en tant que roi des îles des pirates était un des points essentiels de la négociation. Le pirate le dévisagea avec une froideur amusée.
« Gouverneur Kosgou !»
salua-t-il sur un ton familier qui proclamait déjà son égalité. Le regard du gouverneur se glaça.
« Par ici !»
fit Kenneth. Il regarda les vestrites en fronçant légèrement les sourcils.
« Yéma, viens !»
Malta eut l'impression qu'il parlait à son frère comme à un chien ou à un serviteur.
« Malta !»
La voix froide du gouverneur la rappela sévèrement à ses devoirs. Il fallait garder les apparences. Pour l'heure, elle ne pouvait être la sœur de Yémin ni la nièce d'Althea. D'une voix basse, elle déclara
« Ne me demandez rien pour l'instant. Nous parlerons plus tard, je vous en prie, faites-moi confiance. N'intervenez pas dans mes affaires. »
Elle s'éloigna et la laissèrent s'en aller. Mais les yeux d'Althea étaient de pierre. Yémin se hâta d'obéir à son capitaine. Tandis que les autres quittaient le gaillard d'avant, Althea demanda à voix haute
« Comment se fait-il qu'elle soit arrivée jusqu'ici ? Qu'est-ce que cela signifie ?»«
C'est ta nièce ?»
répondit Jack sans embâge, les regardant partir avec des yeux ronds.
« Comme si c'était une réponse. Si j'attends et que je n'interviens pas, ce n'est pas parce qu'elle est un puits de sagesse, mais parce que je ne peux pas faire autrement. J'espère qu'elle se rend compte qu'elle a affaire à un serpent perfide dans la personne de Kenneth. »
« Althea !»
la reprit le navire avec lassitude. Elle se retourna vers la figure de proue.
« Pourquoi l'as-tu saluée en l'appelant « ami des dragons » ?»« Le gouverneur est ami avec les dragons ?»«
Pas le gouverneur, » répondit le navire évasif. « Je préférerais ne pas parler de ça pour le moment.
Pourquoi »« Pourquoi ?»
demanda Althea.
« J'ai d'autres soucis. »
répliqua Vivacia. Althea soupira.
« Tes serpents, leur besoin d'être guidés vers le lieu de nidification et de remonter le fleuve. Mais ça m'est difficile de penser à toi en tant que dragon.
Et plus difficile encore d'accepter que Vivacia est un attachement qui supplante tous les autres. Mais si les serpents étaient les premiers dans son cœur avant les Vestrites, peut-être précédait-il aussi Kenith. Puérilement, Althea aperçut là un moyen possible de la coincer.
Pourquoi n'exprimes-tu pas simplement tes exigences à Kenith?
Tu connais quelqu'un qui réagit favorablement à une exigence?
Demanda Vivacia pour la forme.
Tu as peur de son refus.
Vivacia ne répondit pas. Et ce silence fit d'un coup sortir Althea de son enlisement.
Comme si, à la crête d'une vague, elle découvrait soudain un plus vaste horizon.
Elle perçut le confinement de Vivacia, l'esprit d'un dragon enfermé dans un corps de bois, dépendant des hommes qui manœuvraient ses voiles et des vents qui gonflaient sa toile. Elle comprit brusquement qu'il y avait maintes sortes de viols. Cette révélation lui brisa le cœur. Pourtant, les paroles qu'elle prononça lui parurent à elle-même enfantines.
« Si tu me revenais, nous partirions aujourd'hui, à l'instant même. »«
Tu es sincère, je t'en remercie. »
Althea avait presque oublié la présence de Jack.
Celle-ci déclara « Tu pourrais le forcer, menacer d'ouvrir tes coutures. »
Vivacia sourit avec amertume.
« Je ne suis pas ce fou de parangon pour risquer imprudemment la vie de mon équipage en agissant au mépris du bon sens, non. »
Althea la sentit soupirer.
Kenith ne sera pas influencé par des menaces ou des exigences. Même si j'avais la volonté d'exiger ou de menacer, son orgueil le conduirait à me braver. Pour ceci, je dois en revenir à la sagesse de ta famille, Althea. Je dois marchander sans avoir rien à offrir.
Althea tâcha de considérer les choses froidement.
D'abord, que veux-tu de lui ? Ensuite, que peux-tu lui proposer?
Ce que je veux. Qu'il me ramène au fleuve des pluies aussi rapidement que possible et qu'on remonte jusqu'au lieu de nidification. Y rester près des serpents tout l'hiver, que nous fassions tout notre possible pour les protéger jusqu'à leur éclosion.
Elle eut un rire désespéré.
Ce serait encore mieux si ces navires nous escortaient pour veiller durant leur long voyage sur mes pauvres serpents épuisés, mais tout cela va à l'encontre des intérêts de Kenith. »
Althea se trouva stupide de ne pas l'avoir compris plus tôt.
« S'il aide les serpents, il ne peut plus s'en servir. Ils disparaissent pour devenir des dragons. Il perd un instrument puissant contre Jamelia. »
Foudre était trop désireuse de faire étalage de sa force devant lui. Elle n'a pas prévu tout ceci.
Elle secoua la tête.
Quant à ta deuxième question, je n'ai rien à lui proposer qu'il ne possède déjà.
Les dragons pourraient promettre de revenir et de l'assister après leur éclosion,
suggéra Jack. Vivacia secoua la tête.
Ils ne m'appartiennent pas. Je ne peux les lier par une promesse de ce genre, et même si je le pouvais, je ne le ferais pas. C'est déjà assez dur de devoir servir les humains tant que le bois sorcier durera. Je ne vais pas engager la génération à venir. »
Jack roula les épaules avec nervosité. « C'est inutile. Il n'y a rien qu'il veuille qu'il n'ait déjà. »
Elle eut un sourire sans joie.
« Sauf Althea. »
Un terrible silence accueillit ces paroles.
Juste au moment où Eta aurait été utile, elle n'est pas à bord, pensa Kenith exaspéré.
Il devait donner les ordres lui-même, car Yémin paraissait complètement retourné par la présence de sa sœur.
Installe des chaises et une table dans la chambre des cartes. Va chercher de quoi manger et boire aussi.
Lui ordonna-t-il précipitamment.
« Je vais l'aider !»
proposa Sorcor avec bonhomie et il s'en fut pesamment sur les pas de Yémin. « Parfait !» Sorcor et sa famille avaient grandement souffert aux mains des percepteurs d'impôts du gouverneur et de leur maître durant leur esclavage. Au début de son association avec Kenith, il rabâchait comme un ivrogne ce qu'il ferait précisément s'il mettait jamais la main sur le gouverneur soi-même.
Il valait mieux ne pas lui fournir l'occasion de s'attarder trop là-dessus pour le moment.
Kenneth les suivit d'un pas nonchalant pour laisser à Yémin et Sorcor le temps de préparer la chambre. Et il surprit la jeune femme en train de regarder sa béquille et son pilon. Malta Vestrit ressemblait à son père. L'arrogance de Kyle Havre se décelait dans sa bouche pincée et dans ses yeux étrécis. Il fit halte soudain et agita son pilon.
« C'est un serpent qui m'a arraché la jambe, »
déclara-t-il sur un ton désinvolte.
« Fortune de mère !»
Le gouverneur recula, plus révolté que la jeune personne. Kenneth ne perdit pas son petit sourire.
Ah, il avait oublié la répugnance aristocratique que les Jaméliens éprouvaient pour toute forme de mutilation. Cela pourrait-il lui servir?
Le capitaine rouge avait résumé la proposition du gouverneur.
« Une offre étourdissante !» songeait Kenneth avec allégresse, et ce n'était que la première.
Il les introduisit dans la chambre des cartes préparée de façon acceptable. Yémin avait recouvert la table d'une lourde nappe et ajouté des chandeliers en argent. Le plateau d'argent qu'il portait était chargé de bouteilles et de cruchons émaillés d'un alcool de l'île du Sud, le tout faisant partie d'un récent butin. Les verres et gobelets étaient disposés sur la table. C'était un étalage de richesses convenables, sans être extravagant. Kenneth fut satisfait. Il indiqua la table d'un geste.
« Je vous en prie, entrez. Yémin, fais-nous les honneurs et sers-nous à boire. Voilà un bon gars. »
Malta regarda autour d'elle. Kenneth ne put résister.
« Il ne fait aucun doute que cette chambre a changé depuis que vous l'avez vue la dernière fois, compagne. Mais je vous en prie, mettez-vous à l'aise. » Comme si votre père l'occupait encore.
Ce qui provoqua une réaction inattendue.
Malta Vestrit n'est pas ma compagne. Vous pouvez vous adresser à elle en qualité de conseillère,
précisa le gouverneur avec hauteur. Mais la pâleur subite de Malta Vestrit était encore plus curieuse. Elle s'efforçait de dissimuler une expression de souffrance.
« La faiblesse est faite pour être exploitée. » Le capitaine rouge l'avait averti qu'elle était une fine négociatrice. Si on la secouait un peu, cela pouvait émousser sa sagacité.
Kenneth inclina la tête vers elle et eut un petit haussement d'épaule.
« Il est dommage que le capitaine Havre se soit compromis dans le trafic d'esclaves. S'il n'avait pas fait ce choix, ce navire serait encore à lui. Vous êtes au courant certainement de la promesse que j'ai faite à mon peuple. » Je débarrasserai les îles des pirates des trafiquants d'esclaves. La prise de Vivacia a été une des premières étapes.
Il lui sourit.
Malta remua légèrement les lèvres, mais elle ne formula pas les questions qui la torturaient.
Nous sommes ici pour négocier mon rétablissement sur le trône de Jamélia,
fit observer le gouverneur sur un ton sec. Il s'était déjà assis de lui-même à la table. Les autres avaient choisi leur siège mais restaient debout, attendant Kenneth. Le fait que le gouverneur se soit arrogé la préséance n'échappa pas aux pirates.
« Mais bien sûr »
fit-il avec un grand sourire. Il gagna le haut bout de la table en boitant.
« Yémin !»
Celui-ci tira docilement la chaise et prit la béquille que Kenneth lui tendit une fois assis.
« Je vous en prie, prenez place. »
Les autres s'assirent à leur tour.
Sorcor était à sa droite et le capitaine rouge à côté. Yémin se plaça à sa gauche. Le gouverneur et Malta étaient en face de Kenneth. Elle s'était ressaisie. Elle posa les mains sur la table devant elle et attendit.
Kenneth s'installa confortablement sur sa chaise.
« Bien sûr, votre père est toujours vivant et sous bonne garde. Oh, pas sur ce navire, évidemment. » Kyle Havre suscitait beaucoup trop de malveillance parmi l'équipage, mais il est tout à fait en sûreté où il est. Si nous parvenons à une conclusion satisfaisante aujourd'hui, peut-être le donnerai-je en prime comme témoignage d'humble gratitude envers la conseillère Malta Vestrit pour son précieux concours dans les négociations. »
Le visage juvénile du gouverneur s'empourpra de rage. « Fort bien. Les voilà divisés. » Malta avait aussitôt réprimé l'espoir qui avait illuminé ses yeux. Elle avait désormais plus intérêt à plaire à Kenneth qu'à protéger le gouverneur.
Elle prit une brusque respiration. Sa voix était presque ferme.
C'est fort aimable à vous, capitaine Kenneth. Mais mes intérêts ne sont pas ceux de ma famille aujourd'hui.
Elle chercha à croiser le regard du gouverneur, mais celui-ci fixa Kenneth d'un œil dur.
« Je suis ici en qualité de fidèle sujet du gouverneur, »
conclut-elle. Elle tâchait d'adopter l'accent de la vérité dans ses paroles, mais le pirate devina ses doutes.
« Certes, ma chère, certes, »
ronronna-t-il. À présent, il était prêt à commencer. Brachen faisait un petit somme sur sa couchette. Partage n'était plus qu'à une journée et une nuit de voyage. Il remua dans son lit en cherchant le sommeil. Il s'était enveloppé dans la couverture d'Althea qui gardait encore son odeur. Loin d'en être apaisé, il brûlait de désir. Il avait peur pour elle. Et si leur plan échouait? Tout s'était bien passé ces derniers jours. Le moral de l'équipage s'était grandement amélioré, une journée à terre, de la viande fraîche et des légumes, le sentiment de triomphe éprouvé à l'idée d'avoir volé la mère de Kenneth avait fait renaître leur confiance. Mère elle-même semblait avoir un effet revigorant sur eux. Quand le mauvais temps la chassait du gaillard d'avant, elle se rendait dans la coquerie où elle montrait un don pour transformer le biscuit de mer en une sorte de gâteau pâteux fort apprécié par l'équipage. Le plus encourageant pour Brachen, c'était que, au dire de Cliff, les hommes avaient à cœur de retrouver Althea. Certains se sentaient des devoirs envers elle. D'autres étaient très désireux de regagner leur fierté mise à mal par la raclée que le pirate leur avait administrée. Un son grave, répétitif, s'insinua dans la tête de Brachen. Le sommeil s'enfuit. Il se leva, frotta ses yeux irrités et se chaussa précipitamment. Il déboucha sur le pont dans un chiche soleil d'hiver et une brise fraîche. Parangon fendait la lame sans effort. L'équipage criait en chœur et il leva les yeux pour voir les mâts se charger de voiles. Il comprit soudain ce qui l'avait réveillé. La voix profonde de Parangon faisait vibrer le pont avec un chant à hisser, marquant la cadence, tandis que les hommes établissaient la toile. Un frisson parcourut l'échine de Brachen, son cœur bondit dans sa poitrine. Il avait beau savoir à quel point l'humeur d'une vive nef pouvait influencer sur son équipage, il ne s'attendait pourtant pas à ce spectacle. Les matelots en haut travaillaient avec énergie, en y mettant tout leur cœur. Il s'avança rapidement et croisa ses moyens.
Un bon frais, dommage de le laisser perdre,
salua le second avec un grand sourire édenté.
Je crois qu'on verra partage avant midi demain si on peut aller à pleine voile.
Il ajouta avec détermination, en clignant les yeux,
« On va la reprendre, notre Althea, vous verrez, commandant !»
Brachen hocha la tête et sourit avec hésitation. Quand il atteignit le gaillard d'avant, il y trouva mer et ambre. On avait attaché les longs cheveux noirs de Parangon en une queue de cheval de guerrier.
« Qu'est-ce qui se passe ici ?»
demanda Brachen incrédule. Parangon tourna la tête, la bouche grande ouverte sur la note finale du chant à hisser. Il s'interrompit brusquement.
« Bonjour, capitaine Trell !»
dit-il d'une voix tonitruante. Ambre se mit à rire.
« Personne ne peut résister à son humeur aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que Mère a fini de lui lire son journal de bord ou simplement qu'il est...
« Décidé !»
déclara abruptement Parangon.
« J'ai pris une décision, Brachen, pour moi-même, comme jamais je ne l'ai fait avant. J'ai décidé de me donner corps et âme à ce que nous faisons. Pas pour toi, mais pour moi-même. Je crois maintenant qu'on peut réussir. Et Mère aussi, elle est sûre que, à nous deux, nous pourrons faire entendre raison à Kenneth. »
La vieille femme sourit doucement. Le vent froid lui rosissait les joues. Étrange paradoxe, mais elle paraissait à la fois plus fragile et plus dynamique que jamais. Elle approuva la tirade de Parangon d'un hochement de tête.
Le journal de bord a contribué à cette décision, Brashen. Mais ce n'est pas le principal. Le principal, c'est moi. Cela m'a fait du bien de regarder en arrière, de voir mes voyages par les yeux de mon capitaine. Les endroits où je suis allé, Brashen, et les choses que j'ai observées dans ma vie de navire, tout cela m'appartient.
Il se détourna. Ses yeux étaient toujours fermés, mais il paraissait fixer droit devant lui, au-delà de la mer. Il poursuivit un ton plus bas.
La souffrance en faisait partie. J'ai vécu des vies avant celle-ci, et elles m'appartiennent tout autant. Je peux tirer des leçons de mes différents passés et déterminer mon avenir. Je ne suis plus obligé d'être ce qu'on m'a fait, Brashen. Je peux être parangon.
Brashen leva les mains de la lys. Les autres avaient-ils perçu le désespoir derrière les paroles joyeuses du navire? Si Parangon échouait dans cette dernière tentative pour atteindre son intégrité, Brashen se doutait que le navire sombrerait dans la folie.
« Je sais que tu le peux, »
dit-il avec chaleur. Dans un coin obscur de son cœur, il se sentit aigri et vieux, car il mentait. Il n'osait pas se fier à l'exaltation subite du navire qui lui paraissait le reflet insensé de ses humeurs lugubres d'autrefois. N'allait-elle pas se dissiper aussi promptement au gré de son caprice?
« Voilà en vue !»
La voix claire de Cliff retentit d'en haut. Puis...
« Voilà en vue! Des tas! Des navires jaméliens !»«
C'est incompréhensible !» décréta Brashen.
« Vous voulez que je monte pour jeter un coup d'œil ?»
proposa Ambre.
« J'y vais moi-même, »
répondit-il. Il voulait être un peu seul pour réfléchir à la situation. Il ne s'était pas hissé dans la mâture depuis qu'on l'avait rhabillé. C'était l'occasion ou jamais de vérifier si les réparations tenaient le coup. Il commença à grimper. Il oublia bientôt gréement et réparation. Cliff avait raison. Les navires au loin étaient bien jaméliens. La flotte disparate ne battait pas seulement pavillon jamélien, mais celui du gouverneur lui-même. Balistes et autres catapultes encombraient les ponts de plusieurs grands bâtiments. Il ne s'agissait pas d'une flottille marchande. Le même vent qui poussait Parangon sur le nord vers Partage les rabattait vers eux. Brashen doutait qu'ils se dirigent vers la ville pirate. N'empêche, il n'avait nulle envie d'attirer leur attention. Redescendu sur le pont, il ordonna à ses moïs d'amortir l'air.
« Mais petit à petit, si leurs vigies sont en train de guetter, je veux qu'ils croient qu'on se laisse distancer parce qu'ils vont trop vite et non qu'on ralentit parce qu'on veut les éviter. Ils n'ont aucune raison d'être curieux. Ne leur en donnons pas. »
« Althea a parlé de rumeurs à Partage, » intervint Ambre. « Elle croyait que c'était une fable. Quelque chose à propos des marchands de Terrilleville qui auraient offensé ou blessé le gouverneur, et Jamélia qui aurait armé une flotte pour punir la ville. »
« Le gouverneur a probablement fini par se lasser à la fois des vrais pirates et des pirates déguisés en patrouilleurs chalcédiens. »
« Alors, ils pourraient être nos alliés contre Kenith ?»
demanda Ambre rêveusement. Brashen secoua la tête et eut un rire âpre.
« Ils cherchent autant à piller et à ramasser des esclaves qu'à purger la côte des pirates. Ils garderont tous les navires qu'ils prendront, corps et biens. Prions ça que Vivacia soit hors de vue, car s'ils s'en emparent, nous risquons d'en être réduits à racheter Althea sur le billot des tatoueurs.
« Apporte-nous d'autres chandelles, Yémin, »
dit Kenith avec entrain.
Yémin étouffa un soupir et se leva pour obéir. Le gouverneur ressemblait à un spectre aux yeux caves, et le phare se voyait crûment sur le visage pâle de Malta. Même le capitaine rouge et Sorcor commençaient à montrer des signes de lassitude. Seul Kenith était en pleine possession d'une énergie forcenée.
Malta avait pris place à la table des négociations avec la dignité et le sang-froid d'une marchande. Yémin était fier de sa sœur cadette. Elle avait exposé sa proposition en termes circonspects et, à chaque point, en avait énuméré les avantages pour Kenith et le gouverneur. La reconnaissance de Kenith comme roi des îles des pirates, état souverain.
la fin des incursions des trafiquants d'esclaves, plus de patrouilles chalcédiennes dans les îles des pirates. Le capitaine Rouge et Sorcor avaient arboré de grands sourires triomphants. Mais leur satisfaction s'était quelque peu attiédie quand elle avait poursuivi en énumérant ce que le gouverneur demandait en échange. Son retour en toute sécurité à Jamelia, avec la flotte de Kenith pour escorte, l'assurance que les îles des pirates le reconnaissaient et le soutenaient comme gouverneur de Jamelia. À l'avenir, Kenith garantirait le libre passage des navires battant pavillon jamélien dans la passe intérieure et soumettrait lui-même tous les pirates indépendants qui ne tiendraient pas compte de l'accord. D'abord, Kenith s'était montré enthousiaste. Il avait envoyé Yémin chercher parchemins, plumes et encre, et lui avait ordonné de consigner les termes de la convention. Ce qui ne présenta aucune difficulté, excepté quand on en vint aux formules consacrées désignant le gouverneur. Formules qui, à elles seules, remplirent une demi-page de « Sa très glorieuse et magnifique majesté », etc. Kenith s'était hâté de s'en inspirer et le document mentionnait, en se référant à lui, « L'intrépide et invaincu pirate capitaine Kenith, roi des îles des pirates, par la vertu de sa hardiesse et de sa finesse. » Yémin avait surpris l'amusement qui dansait dans les yeux du capitaine Rouge et le grand orgueil de Sorcor alors qu'il transcrivait ses titres fleuris. Il avait cru que la rédaction mettrait rapidement un terme aux négociations, mais Kenith ne faisait que commencer. Expéditif et assuré, il s'était mis à ajouter des clauses au pacte. Le gouverneur de Jamelia, prodigieusement puissant, ne pouvait attendre de lui, roi de petites villes dispersées, peuplées de proscrits, qu'il patrouille sans compensation dans ses eaux contre des pirates mécréants. Quel que soit l'accord passé entre Jamelia et les vaisseaux de patrouille chalcédiens, celui-ci serait reconduit avec Kenith et ses propres navires de patrouille. Le gouverneur trouvait-il à objecter? Cette clause n'entraînerait pas de ponctions supplémentaires dans ses coffres, l'argent irait simplement à d'autres navires. Et, bien sûr, par mesure de courtoisie réciproque, les navires battant le pavillon au corbeau de Kenith traverseraient sans encombre les eaux jaméliennes pour faire route vers le sud. Quant au pardon sélectif accordé aux criminels réfugiés dans les îles des pirates, ma foi, c'était un peu trop embrouillé. Une amnistie applicable à tous les sujets de Kenith ne serait-elle pas beaucoup plus simple à instituer? Lorsque le gouverneur objecta qu'on ne pourrait distinguer ces « tatoués » des esclaves légaux de Jamelia, Kenith avait paru le prendre au sérieux. Il avait gravement proposé de décréter que tous les citoyens libres de Jamelia soient tatoués d'une marque spéciale qui les proclamerait libres sujets du gouverneur. Le capitaine Rouge avait tout sauté pour couvrir son rire, mais le gouverneur s'était empourpré. En se levant, il s'était déclaré irréparablement offensé. Il avait marché d'un air dédaigneux jusqu'à la porte et était sorti. Malta l'avait suivi, la mine piteuse. Son regard fixe où se lisait l'humiliation prouvait qu'elle avait compris ce que le gouverneur avait négligé de voir. Il n'avait nulle part où aller. Cette négociation allait se transformer en rien de moins qu'une escroquerie rédigée sur parchemin. Pendant qu'ils attendaient que passe l'accès d'humeur du gouverneur, Kenith ordonna à Yémin de servir les alcools les plus fins à ses lieutenants et l'envoya chercher des fromages et des fruits exotiques qu'il avait saisis sur sa plus récente prise. Ils étaient détendus, bien au chaud et à l'aise quand le gouverneur revint, suivi d'une Malta vaincue. Ils reprirent leur place. D'une voix glacée, le gouverneur proposa à Kenith une centaine de pardons signés de lui qu'il pourrait distribuer à sa guise.
« 1000 !»
riposta Kenith tout aussi froidement. Il s'adossa à sa chaise.
« Et vous me donnerez l'autorisation d'en signer d'autres selon mes besoins ?»«
D'accord !»
fit l'autre d'un ton hargneux et boudeur, alors que Malta ouvrait la bouche pour protester. Le jeune chef lui décocha un regard noir.
« Cela ne me coûte rien, pourquoi ne lui accorderais-je pas cela ?»
L'incident donna le ton de ce qui allait suivre. Les efforts déployés par Malta pour ne céder du terrain qu'en marchandant étaient minés par le désespoir évident du gouverneur et finalement par son ennui. Les navires jaméliens qui faisaient relâche pour se ravitailler en eau douce et en vivres
ou pour faire du commerce dans les îles des pirates, devrait acquitter une taxe. Jamelia n'interviendrait pas dans les règlements fixés par Kenith concernant le commerce et le passage des navires dans les îles des pirates. À la grande satisfaction de Sorcor, il fut stipulé que les débiteurs insolvables condamnés à être vendus se verraient proposer l'exil aux îles des pirates. Le capitaine Rouge inséra une clause précisant que les comédiens ne seraient plus débiteurs solidaires de leurs troupes. À partir de là, la portée politique des exigences de Kenith se réduisit à une simple extorsion de privilèges. Un appartement dans le palais du gouverneur serait exclusivement réservé à Kenith au cas où il déciderait de visiter Jamelia. Tout serpent aperçu dans la passe intérieure devrait être considéré comme la propriété de Kenith et laissé en paix. On devrait toujours employer la formule « le juste et clément roi des îles des pirates » pour s'adresser à Kenith. Les négociations se mirent à battre de l'aile seulement quand l'esprit inventif du pirate commença à se tarir. Alors que Yémin se levait pour aller chercher des chandelles, il songea que bientôt on n'en aurait plus besoin. Les pourparlers avaient duré toute la nuit. Une aube d'hiver commençait à poindre sur la mer. Il était à côté de Malta quand il ficha les bougies dans les chandeliers d'argent massif et regretta de ne pouvoir communiquer avec elle comme il le faisait avec le navire, sans autre biais qu'une pensée concentrée. Si elle avait pu savoir combien il était fier d'elle, même s'il était assis avec ses adversaires. Elle avait négocié comme une vraie marchande. Si la proposition de Kenith de lui rendre son père l'avait troublée, elle s'était refusée à le montrer. Il y avait peu d'espoir que Kenith honore sa parole. Comment Malta en était-elle venue à se retrouver avec le gouverneur? Le mystère restait entier, mais les rigueurs de ce voyage se lisaient sur son visage. Si les négociations réussissaient, alors que se passerait-il? Partirait-elle avec le gouverneur? Il mourait d'envie que tout cela se termine pour pouvoir parler avec elle. Il était impatient d'avoir des nouvelles de chez lui, et ce désir était plus fort que la faim ou le sommeil. Il alluma la dernière chandelle et reprit sa place. Kenith le surprit en lui appliquant une claque joviale sur l'épaule.
« Fatigué, fiston? Eh bien, nous arrivons bientôt au bout. Il ne reste plus qu'à discuter de la rançon proprement dite. Certains préfèrent de l'argent, mais je serai moins strict en cette matière. Des pierres précieuses, des perles, des fourrures, des tapisseries, même...
« Voilà qui passe les bornes !»
Malgré sa lassitude, le gouverneur se leva en vacillant, les lèvres blanches et pincées. Ses mains crispées tremblaient de fureur. L'espace d'un instant terrifiant, Yémin crut que de colère il allait fondre en larmes. Malta tendit vers lui une main secourable, mais suspendit son geste. Elle adressa à Kenith un regard meurtrier et déclara d'une voix calme.
« Seigneur gouverneur Magnadon, je vois la logique de tout ceci. Vos nobles vous estimeront moins s'ils n'ont rien à payer pour que vous leur soyez rendus. Réfléchissez. Ce sera le moyen de jauger ceux qui vous sont vraiment fidèles. Vous récompenserez plus tard ceux qui sont désireux de contribuer à votre retour. Les autres sentiront le poids de votre superbe courroux. Le roi Kenith reste malgré tout un pirate, seigneur. »
Elle gratifia Kenith d'un sourire pincé, comme pour s'assurer que sa pique avait porté.
Vos nobles se méfieront d'un traité au terme duquel il n'exigerait pas quelque récompense pour lui-même et se contenterait davantage accorder à son peuple.
C'était pitoyable. Elle voyait que le gouverneur était dans l'incapacité de repousser les prétentions de Kenith. Elle cherchait à ménager son orgueil de jeune homme. Il remua les lèvres sans émettre un son. Puis il décocha à Malta un regard venimeux. Alors, à mi-voix, il siffla.
« Assurément. Vous n'êtes pas en train de ramper pour récupérer votre père, n'est-ce pas ?»
Il reporta les yeux sur Kenith.
« Combien ? »
fit-il d'un ton sec et amer.
« Voilà en vue !»
Toutes les têtes se tournèrent au cri de la vigie. Mais Kenith parut simplement excédé.
« Va voir ce qu'il en est, veux-tu, Sorcor ? »
demanda-t-il avec nonchalance.
Il désigna le gouverneur et lui sourit du sourire d'un gros matou noir jouant avec une souris. Mais avant que Sorcor ait atteint la porte, Yémin entendit des pas précipités. Yola ne frappa pas, il tambourina à la porte, Sorcor ouvrit à la volée. Yola annonça d'une traite.
« Commandant, des navires jamaéliens, une flotte entière qui vient du sud dans notre direction. La vigie dit qu'il voit des machines de guerre sur les ponts. »
Il reprit haleine.
« On peut leur échapper si on dérape tout de suite. »
L'espoir s'alluma dans les yeux du gouverneur.
« Maintenant, nous allons bien voir, »
déclara-t-il.
« En effet, nous allons voir, »
renchérit aimablement Kenneth. Il se tourna vers son second avec un air de reproche.
« Yola, Yola, pourquoi fuirions-nous alors que le sort m'a donné tous les avantages dans cet affrontement ? Nous sommes dans des eaux que nous connaissons bien, les serpents nous entourent et nous avons le souverain gouverneur Magnadon comme hôte. Une petite démonstration de force et de mise. »
Il se tourna vers le gouverneur.
« Votre flotte sera peut-être plus désireuse d'honorer notre accord quand elle aura apprécié au préalable les attentions de quelques serpents. Alors nous verrons comment vos sujets négocieront votre libération. »
Il le gratifia d'un sourire moqueur et lui lança le parchemin.
« Je vais prendre plaisir à mener tout ceci à bonne fin. Votre signature, monsieur. Alors j'apposerai la mienne. Quand ils nous attaqueront, s'ils attaquent, nous verrons quel cas ils font de la parole de leur gouverneur et de sa vie. »
Il adressa un grand sourire à Sorcor.
« Je crois que nous avons plusieurs pavillons jaméliens dans notre cargaison. Comme sa seigneurie, le gouverneur Magnadon de Jamélia est notre hôte, c'est la moindre des corrections de les hisser en son honneur. »
Kenneth se leva, redevenu brusquement capitaine du navire. Il lança un regard dédaigneux à son second.
« Yola, calme-toi. Veille à ce que le pavillon du gouverneur soit ajouté au nôtre, puis pars les hommes au combat. Sorcor, Rouge, je vous recommande de regagner vos navires et de faire de même. Je dois délibérer avec la vive nef et les serpents. Ah oui, nos hôtes. Yémin, occupe-toi d'eux. Installe-les dans la chambre d'Altea, veux-tu ? Jake et elle les y rejoindront jusqu'à ce que tout soit terminé. »
Il n'avait pas précisé qu'ils y soient enfermés. Yémin se saisit de cette omission. Et il disposerait d'un peu de temps avec sa sœur.